Mais j'aimerais donc vous lire celle-ci, Le chêne et le roseau. Alors, c'est un peu parfois du vieux français, c'est parfois un peu difficile à comprendre certaines phrases, mais l'essentiel est largement accessible, rassurez-vous, hein, s'il y a quelques mots que vous ne comprenez pas, ce n'est pas important. Le chêne, un jour, dit au roseau, « Vous avez bien sujet d'accuser la nature, un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui, d'aventure, fait rider la face de l'eau, vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Voilà cette fable, le chêne et le roseau. Je pense que vous avez saisi le centre de cette fable. On voit qu'on a un chêne et un roseau qui discutent ensemble, le chêne, grand, majestueux, et le roseau, tout fragile, tout petit. Et le chêne est bien ennuyé pour son ami. Il voit bien qu'il est tellement fragile alors que lui est si fort. Et pourtant, lorsque la tempête vient, le roseau, lui, va toujours plier, il ne va jamais casser. Alors que le chêne, lui, devant le plus violent des orages, eh bien, va être déraciné. C'est lui qui va être vaincu alors que le tout petit roseau va tenir. Riche en enseignements, si j'ai voulu vous partager cette fable, c'est parce que, comme Alain l'a dit, nous allons parler ensemble ce matin de l'Église persécutée. Je pense que ça avait été annoncé dimanche dernier. Le dimanche de la semaine dernière était le dimanche de l'Église persécutée. Et à cette occasion, j'ai voulu, du moins à Bélignat, partager une prédication sur ce thème que je vous apporte aujourd'hui. Dans le texte que nous allons voir ce matin ensemble, de Corinthiens chapitre 4, les versets 7 à 18, nous allons voir l'Église persécutée. Paul nous parle dans ce texte de pressions que subissaient aussi les premiers chrétiens. Lui en premier, mais aussi les collaborateurs qui l'accompagnaient et l'Église de Jésus-Christ en général. Paul est bien placé pour parler de persécution, déjà parce qu'en premier, il a été lui-même persécuteur des chrétiens, avant de connaître le Messie, avant de savoir qui est Jésus, lui-même combattait la foi, et lui-même, après avoir connu le Seigneur, il a annoncé l'Évangile et a subi lui aussi la persécution jusqu'à la mort. Il est donc bien parlé, il connaît le sujet, il connaît les deux facettes de la persécution. On va lire ensemble ce texte de Corinthiens 4, les versets 7 à 18. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonné, abattu, mais non perdu, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Jusqu'ici, la parole de Dieu, où nous voyons que Paul nous parle d'une situation qui aujourd'hui encore est vraie pour certains de nos frères et sœurs. Paul avait donc autour de lui tout un tas de collaborateurs avec qui il travaillait pour annoncer l'Évangile. Et c'est vrai que lorsqu'on se plonge, entre autres, dans le livre des Actes et qu'on regarde un peu comment les choses se sont passées, force est de constater qu'ils ont beaucoup souffert. Ils ont connu beaucoup de difficultés pour le Seigneur. Et aujourd'hui encore, nous avons des frères et sœurs qui vivent des difficultés similaires, des souffrances, qui sont persécutés, qui doivent vivre leur foi en cachette et qui parfois doivent payer le prix de leur appartenance à Jésus-Christ. Et face à cette réalité dont nous entendons régulièrement parler, il est bien légitime de se demander pourquoi. Et c'est un peu avec cette question pourquoi que j'aimerais vous emmener ce matin dans notre texte. Déjà, j'aimerais vous poser une question et y répondre, comme ça vous n'avez rien à faire. Pourquoi une telle opposition ? Pourquoi y a-t-il une telle opposition contre l'Évangile ? Et aujourd'hui encore, pourquoi la colère n'a pas baissé ? Déjà, deux raisons que j'aimerais vous donner. Pourquoi une telle opposition ? La première, c'est parce que nous détenons un trésor. C'est ce que Paul nous dit dès le premier verset de notre texte d'aujourd'hui. Nous portons ce trésor. Il parle d'un trésor. Et si l'on lit les quelques versets qui sont avant, on réalise que ce trésor, en fait, c'est l'Évangile. C'est la joie, le privilège d'avoir l'Évangile à proclamer, une mission qui a été donnée par Dieu, par Jésus, à ceux qui lui appartiennent. Et c'est un immense trésor pour Paul. Pour Paul, en tout cas, pour lui, l'Évangile de la gloire de Christ est un bien, un trésor de bien plus grande importance que tout ce qu'il avait connu auparavant. Il nous dit dans un autre texte, dans Philippiens chapitre 3, verset 8, « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » C'est fort de lire ça, surtout dans la bouche de Paul, sous la plume de Paul, lorsque l'on sait quelle vie il avait, Paul. Paul n'était pas un mendiant, c'était quelqu'un qui faisait partie de la caste des pharisiens, c'était une autorité religieuse. On sait qu'il avait été instruit au pied d'un grand théologien, c'était quelqu'un de grande renommée. Paul était connu, il avait de l'intelligence, il avait tout pour réussir dans la vie. Toutes les cartes étaient dans ses mains. Mais lorsque nous lisons ce verset de Philippiens, on réalise que lorsque Paul a connu le Seigneur Jésus, il a réalisé que toute sa vie, tous ses privilèges, tout ce qu'il a construit, tout cela à côté de le simple fait de connaître Jésus, ce n'est rien. Des ordures, même, il se permet de dire, des déchets. Tout cela n'est rien à côté du privilège de connaître Christ. C'est dire pour lui à quel point c'est important. Connaître Jésus, c'est en fait le plus beau des trésors. Voilà pourquoi nous sommes attaqués. Nous détenons le plus beau des trésors. Est-ce que nous en sommes aussi convaincus que Paul ? Je me jette la pierre en premier. Il est vrai que parfois, je ne réalise pas le privilège que j'ai de pouvoir connaître le Seigneur Jésus, d'avoir la joie d'avoir une Bible entre les mains, de pouvoir, quand je le veux, même sur mon téléphone, je l'ai aussi à n'importe quel endroit, pouvoir lire la parole de Dieu. Quel immense privilège, quel trésor est entre nos mains. Vous savez, selon la définition du dictionnaire, un trésor, c'est un ensemble de choses de valeur, des biens que l'on accumule et que souvent on cache et on protège. Quand on a des bijoux, quand on a ce genre de choses, c'est très précieux. On réalise pour ce cas-là à quel point c'est précieux. On va le défendre, le cacher, le protéger. Et pourtant, avec le trésor que nous avons, cet évangile, la joie de connaître Christ, ce trésor-là, lui, il est à partager. C'est tout l'inverse. Il n'est pas à dissimuler, à cacher, à enterrer dans le sable, mais il est à partager. On pourrait dire, mais du coup, tout le monde va vouloir goûter à ce trésor, tout le monde va en vouloir, s'il est si précieux que cela. Et si nous avons à cœur de le partager et de ne pas le garder pour nous tout seuls, forcément, il va être accepté. Et malgré tout, on voit là quelque chose d'étrange. Bien souvent, ce trésor n'est pas bien accueilli. Ce trésor, il dérange, il pose des questions qui fâchent. Alors que, en règle générale, un trésor, ça attise la convoitise, la curiosité, l'envie de voir. Mais ce trésor-là n'attire pas systématiquement les foules. Et pourtant, c'est un trésor que nous détenons. Et c'est à cause de ce trésor, entre autres, qu'il y a une opposition. Parce que certes, les hommes et les femmes à qui nous voulons partager l'Évangile, ce trésor, parfois le rejettent, cela ne les intéresse pas, ou autre raison. Mais pour autant, nous avons un ennemi qui guette, qui regarde, et qui ne veut surtout pas que les autres puissent profiter de ce trésor. Et c'est bien à cause de cela que nous sommes dans cette opposition. Nous sommes dans une guerre, et nous avons à prendre notre place, nous avons à réaliser qu'il y a un combat qui se joue, un réel combat. Certes, nous sommes dans un pays, nous avons la chance de ne pas être exposés, nous avons la chance de pouvoir vivre notre foi, mais c'est vrai que, comme tu le disais, Alain, la persécution peut prendre plusieurs formes. Et certes, physiquement, nous ne risquons rien, quoique, on pourrait en discuter, mais malgré tout, on sent une pression environnante autour de nous, on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'on est, on n'est pas vraiment à notre place, on n'est pas vraiment chez nous, même si c'est chez nous. On sent en fait qu'on n'appartient pas vraiment à ce monde, alors qu'on y appartient bien. Il y a un espèce de décalage qui fait que nous sommes dans une situation qui est inconfortable, malgré tout. On a un pied sur terre et un pied au ciel. Nous vivons les choses à la lumière de ce que nous vivrons dans l'avenir. Et ça produit un décalage. Nous sommes donc dans une telle opposition parce que nous détenons un trésor que certains veulent nous empêcher de partager. Une deuxième raison pour laquelle il y a une telle opposition, c'est que nous sommes aussi fragiles. Nous vivons dans un monde où c'est la loi du talion, la loi du plus fort. Le faible succombe pour que le fort subsiste. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Même si on peut les déguiser autant qu'on veut, en finalité, on en vient toujours à ce rapport de violence. Et évidemment, lorsque l'on voit quelqu'un qui est faible, eh bien, on va appuyer dessus. On en profite lorsque l'on voit la faiblesse chez quelqu'un. Voilà la mentalité de notre monde. Et c'est aussi ce que Paul retranscrit ici, en nous disant que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ce grand trésor, inestimable, au-delà de tout ce que Paul a pu avoir comme privilège, eh bien, le Seigneur va le confier à des vases qui sont faits d'argile, des vases de terre. Un contraste va donc apparaître ici, un trésor et le vase de terre qui le contient. Et c'est là que cela nous rappelle que nous sommes, en tant qu'êtres humains, des créatures de Dieu. Nous avons la chance d'avoir ce trésor à partager, mais nous avons été tirés de la poussière. Selon Genèse, chapitre 2, l'Éternel nous tire de la poussière. Nous sommes faits d'argile, faits de terre. Nous sommes bien comparables à un vase. Le vase est fragile. Et c'est aussi ce que Paul nous dit dans notre texte, l'homme extérieur dépérit, l'attente est destructible. Le messager, en fait, celui qui transmet le trésor, a peu de valeur. Ce n'est pas lui qui compte, mais c'est le trésor, celui ce qui est à l'intérieur du vase de terre. Le messager, lui, a sa place à prendre. Ce n'est pas qu'il n'a pas de valeur aux yeux de Dieu, mais il est porteur d'un message de grande valeur. Et ce contraste aussi va produire cette situation de tension. Un trésor inestimable entre les mains d'hommes et de femmes bien fragiles. Et c'est là aussi que nous voyons le lien avec la vie du Seigneur Jésus. Lui aussi était roi, était Dieu. Lui était au-dessus du genre humain. Et pourtant, il a choisi de prendre une apparence fragile. Il s'est fait homme comme vous et moi, un être de chair. Il s'est montré faible alors qu'il était le grand roi souverain. Quel mystère pour nous! Pourquoi Jésus ne s'est pas montré directement en gloire? Tout le monde aurait bien vu qu'il est le vrai Messie. Tout le monde aurait accepté la foi. Mais le plan de Dieu est autre. Et nos pensées sont bien loin de pouvoir comprendre et atteindre celles du Seigneur. L'Éternel a envoyé Jésus, lui aussi, pour vivre une vie comme la nôtre, fragile, alors qu'il était porteur du message le plus important. Et c'est grâce à lui, c'est grâce à Jésus que nous pouvons être sauvés. Parce qu'il s'est montré dans cette faiblesse, parce qu'il a accepté d'être humilié, lui qui était Dieu, lui qui aurait pu descendre de la croix, comme cela lui a été proposé, il aurait pu le faire, mais il a choisi de nous montrer aussi un exemple. Il a choisi de mourir pour nous, et cela doit nous donner du courage aussi. Lorsque nous sommes dans ces situations de faiblesse, rappelons-nous toujours que le Seigneur Jésus aussi a connu la faiblesse. Il est bien normal que nous aussi, parfois, nous le connaissions. Ceci étant dit, c'est assez facile pour moi de dire cela. Moi, je vis en France, en Europe occidentale, mais pour nos frères et sœurs qui vivent dans des pays où on n'a pas le droit de croire en Jésus, c'est facile à dire. Et pourtant, c'est bien là aussi l'encouragement que nous pouvons leur porter. C'est que les souffrances que nos frères et sœurs vivent, eh bien le Seigneur n'y est pas étranger. Comme tu l'as bien rappelé, Alain, le Seigneur aussi a connu la souffrance intérieure, émotionnelle. Il a connu la souffrance physique. La vie du Seigneur n'a pas été facile. Il a beaucoup souffert alors qu'il apportait une bonne nouvelle. C'est pourquoi il y aura toujours une opposition contre l'Évangile. Toujours. Et c'est tout à fait normal. Cela ne doit pas nous effrayer. Maintenant, une deuxième question que j'aimerais vous poser, après vous avoir demandé pourquoi une telle opposition, parce que nous détenons un trésor et parce que nous sommes fragiles, une autre question vient. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas détruits? S'il y a une opposition si forte et si nous sommes fragiles, la conséquence logique, c'est que l'Évangile est stoppé, que les chrétiens soient détruits. Et certains se sont attelés à la tâche de tout temps dans l'histoire. Il y a eu des martyrs, des personnes qui ont voulu étouffer la vérité en tuant. Mais nous voyons que, historiquement parlant, l'Évangile a toujours continué à avancer. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas détruits ? Nous ne sommes pas détruits, Paul nous donne ici dans ces versets deux raisons. En premier, parce que nous sommes des outils dans la main de Dieu. La question se pose légitimement. Qu'est-ce que nous devons faire face à la persécution, face à ce trésor que nous détenons? Est-ce que nous devons nous taire? Est-ce que nous devons nous cacher, faire preuve de sagesse? Et pourtant, Paul nous dit au verset 13, de façon limpide, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Il nous cite ici le psaume 116, qu'on ne va pas lire, mais qui énonce là un principe général. De l'abondance de son cœur, la bouche de Paul parle. C'est un principe que l'on retrouve chez les croyants. Lorsque l'on a un tel trésor en soi, on ne peut pas le cacher, on ne peut pas le garder pour nous. Mais on est poussé aussi par l'Esprit à en parler, à le partager. S'il y a de la lumière dans nos cœurs, il y en aura aussi probablement autour de nous. En s'inscrivant en fait dans le projet de Dieu, Paul est prêt à souffrir pour une cause qu'il sait juste. Alors qu'il a vécu toutes ces souffrances, toutes ces persécutions, alors qu'il les a lui-même fait à d'autres, cette parole « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé » le porte. parce qu'il ne peut pas se taire. Pour lui, il met les bonnes priorités. Il sait ce qui est vraiment important. Et pour lui, ce qui est le plus important, ce n'est pas de préserver son intégrité physique ou mentale, ce n'est pas de préserver sa vie, c'est d'annoncer l'Évangile. Voilà pour lui ce qui est vraiment important. Et il se place malgré tout dans cette perspective où, certes, il est un outil, mais il est dans les mains de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas juste étranger à la situation. Dieu ne reste pas juste lointain par rapport à ce que ses enfants vivent. Le Seigneur est pleinement aussi engagé à nos côtés. Et c'est lui qui permet que nous soyons dans ces situations de persécution. C'est là où pour nous il est important de réaliser que, certes, nous sommes appelés à souffrir. La parole dit aussi, hein, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une affirmation. Mais malgré tout, nous avons confiance parce que l'Éternel nous connaît. Nous sommes des outils dans les mains de Dieu. Il sait comment nous sommes façonnés. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui nous a façonnés. Il sait là où nous sommes forts et il sait là où nous sommes faibles. Et vous savez, quand on travaille, quand on fait du bricolage, moi je ne suis pas du tout doué pour ça, je ne suis pas le mieux parlé pour en parler, mais quand on veut faire des travaux chez soi, eh bien on fait bien attention de choisir le bon outil. Si on veut planter un clou, on va prendre un marteau. Si on veut scier une planche, on va prendre une scie. Si on veut planter un clou avec une scie, ça va être difficile. Si on veut planter un clou avec une scie, ça aussi, ça va être difficile. Ça se fait, mais en soi, ce n'est pas la meilleure façon d'utiliser un outil. Et quand on utilise un outil autrement que pour la fonction pour laquelle il a été créé, on risque de le casser. Et je pense que parfois, on a peur de cela. On a peur d'être cassé en tant qu'outil dans les mains de Dieu. On a de l'appréhension de savoir, mais est-ce que le Seigneur va vraiment m'utiliser comme selon ce que je suis capable de faire pour lui ? Est-ce que je ne vais pas me retrouver dans une situation où en fait je ne peux pas accomplir ce que le Seigneur me demande ? Et je pense que même inconsciemment, parfois, c'est ça qui trotte dans notre tête. Et j'aimerais nous encourager ce matin et nous rappeler que le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné la vie, plus même que nos parents. Il nous connaît profondément intérieurement et il sait ce que nous sommes capables de faire, même si nous, on n'y croit pas. Lui croit peut-être plus en nous que nous-mêmes. Et il sait aussi lorsque nous sommes fragiles. Il sait que parfois, dans certaines situations, eh bien, nous ne pouvons pas tenir. Et il nous épargne ces situations. Le Seigneur permet en fait qu'il nous arrive ce que nous sommes capables d'endurer et de vivre avec lui. Et bien souvent, lorsque nous sommes dans des situations où parfois on a l'impression de ne pas pouvoir tenir le choc, la première question que l'on devrait se poser, c'est: est-ce que j'ai vraiment confiance en Dieu ? Est-ce que je suis vraiment attaché à lui ? C'est ça la première question à se poser. Nous ne sommes pas détruits, premièrement, parce que nous sommes des outils dans les mains de Dieu. La deuxième raison pour laquelle nous ne sommes pas détruits, c'est parce que nous regardons aux choses qui ne se voient pas. Nous ne nous attachons pas aux choses matérielles de ce monde. Ce n'est pas là qu'est notre espérance. Ce n'est pas là qu'est notre amour. Déjà, pour Paul en tout cas, nous regardons à l'espérance future, où la gloire sera pour nous avec le Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il nous dit au verset 14, « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. » Cela aussi, ça nous aide. Cela aussi fait que nous ne sommes pas détruits. Parce que nous savons qu'un jour nous serons ressuscités. Jamais l'Église de Jésus-Christ ne sera détruite. C'est un fait. C'est un fait. Peu importe les vents et les marées, peu importe que l'ennemi fasse tout ce qui est en son pouvoir pour détruire l'Église, ça ne marchera jamais. Et parfois, on peut être effrayé. On peut être effrayé de voir à quel point l'ennemi a la main mise sur notre monde et à quel point la pression se fait forte. Et c'est vrai que nous sommes tellement faibles que face à cela, on ne peut pas résister. On ne peut pas lutter, humainement parlant. ça ne marche pas, on ne peut pas y arriver. Mais c'est négliger en fait que c'est l'Éternel qui est combattu. Ce n'est pas directement nous. La guerre, elle n'est pas portée directement contre nous. Elle est portée contre l'Éternel. Et l'Éternel, lui, sera vainqueur. Cela a déjà été acquis à la croix. Nous n'avons pas à avoir peur. La victoire est déjà acquise. Mais nous avons à vivre dans ce temps d'attente où le roi reviendra et où tout genou fléchira devant lui. La gloire qui nous attend lorsque nous serons ressuscités avec le Seigneur Jésus, c'est une gloire qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. C'est une gloire qui en fait est infinie en qualité, une gloire qui est infinie en durée, une gloire qui est infinie en quantité. Il est bien difficile pour nous de nous imaginer qu'est-ce qui nous attend dans l'éternité. Mais pourtant, la Bible nous dit que nous serons semblables à Jésus. C'est étrange, c'est mystérieux pour nous de dire semblable à Jésus, mais Jésus est tellement grand, tellement au-delà de ce qu'on peut concevoir. Alors certes, ça ne veut pas dire que nous serons exactement comme Jésus, mais semblables à lui. Nous aurons un corps de gloire semblable à celui de Jésus. Quelle gloire immense pour nous qui sommes au jour d'aujourd'hui, si fragiles ces vases de terre. Lorsqu'on voit que parfois nous vivons des événements dans notre vie plus ou moins durs, qui nous fragilise. On se dit, mais en comparaison, ce que l'on vivra avec le Seigneur, c'est tellement grand. Quelle joie est la nôtre de pouvoir avoir cette espérance dans le Seigneur Jésus. Parce que lui est mort, tout comme nous aussi nous mourrons. Mais il est ressuscité, tout comme nous aussi nous serons ressuscités. Tout cela nous porte en fait à nous attacher aux choses qu'on ne voit pas. Parce que toutes ces réalités, elles ne sont pas visibles. Et c'est bien pour cela, c'est un argument pour certains de ne pas accepter le Seigneur Jésus. Si c'était vrai, ça se verrait. Et pourtant, l'Éternel a voulu que la chose soit cachée, pour l'instant. Et c'est à nous de nous attacher à ce qui est invisible et à laisser de côté ce qui est visible, ce qui est matériel. Là aussi, c'est bien facile pour moi de dire cela, hein. Et je serais bien moins brave de le dire à des frères et sœurs qui risquent leur vie pour la foi. Mais je peux malgré tout le dire, parce que c'est l'Écriture qui l'atteste, parce que c'est Dieu qui le dit, et Dieu a vécu la persécution et la souffrance que moi je n'ai pas connue. C'est parce que lui le dit que moi je peux le dire. Et vous savez, il est bien facile parfois de se blâmer soi-même, de se dire, mais au final, ma foi, elle est si petite comparée à ceux qui souffrent vraiment pour la foi. J'aimerais quand même mettre en avant ce que Paul dit ici au verset 12. « Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Vous voyez qu'il sépare ce qu'il vit, lui et ses collaborateurs, de ce que vit l'Église aux Corinthiens. C'est dire en fait que lorsqu'on se penche un peu sur la situation, Paul, lui, il expose sa vie avec ses collaborateurs, les Corinthiens, beaucoup moins, beaucoup moins. Et c'est pour cela qu'il dit ça. La mort agit en nous et la vie agit en vous. Tout le monde n'est pas appelé à souffrir une persécution cruelle pour le Seigneur. Et cela ne doit pas nous inquiéter, cela ne doit pas nous accabler. Nous n'avons pas à avoir honte de ne pas souffrir autant que nos frères et sœurs. C'est en fait négliger une des parties les plus importantes de l'Église, du corps de Christ. C'est que nous nous soutenons mutuellement. Imaginez, si nous tous, si tous les croyants étaient dans les situations les plus difficiles, dans les pays où on n'a pas le droit d'avoir la foi, si tout le monde souffrait de façon équivalente, qui serait là pour nous réconforter? Qui serait là pour intercéder pour nous? Si nous n'avions pas accès, nous, en tant que personnes qui sommes libres d'avoir la foi, si nous n'avons pas accès à toutes ces informations sur ce que vivent nos frères et sœurs, qu'est-ce qui se passerait pour eux? Vous pourriez me répondre qu'ils ne seront pas abandonnés de Dieu. Oui, d'accord. Mais Dieu nous enseigne aussi dans sa parole que nous avons notre place à prendre. En tant que personnes privilégiées de ne pas souffrir pour la foi, nous avons notre place à prendre pour les soutenir, pour les porter dans nos prières, parce que c'est aussi au travers de nos prières que le Seigneur va les fortifier. Cela aussi va contribuer au fait qu'ils vont tenir bon dans la foi et ne pas abandonner. Donc vous voyez que, en voyant les choses sous cet angle, eh bien, on n'a plus à avoir ce poil sur les épaules de ne pas souffrir autant qu'eux. Mais il faut pour cela réaliser que nous avons notre place à prendre. En fait, le fait que certains souffrent et que d'autres ne souffrent pas pour la foi va entraîner une cohésion de groupe. Tout cela va produire en fait l'affermissement collectif. Tout cela va faire que nous serons plus encore en communion les uns avec les autres. Nous serons en relation les uns avec les autres par le Saint-Esprit. Tout cela va produire, c'est aussi ce que Paul nous dit ici, tout cela va produire des remerciements envers Dieu qui sont bien plus nombreux. Il nous parle au verset 15 hein, d'action de grâce. C'est peut-être pas ce qu'on aurait dit, mais vu que Paul le dit, je le dis aussi. Toutes ces souffrances et toutes ces prières, tout ce soutien que nous pouvons avoir pour eux, va produire des remerciements envers Dieu bien plus nombreux. Le sang des martyrs a toujours été fécond. De tout temps, il y a eu des chrétiens, des croyants qui ont été persécutés, qui ont été mis à mort. Mais vous savez, il ne faut pas négliger que l'Église persécutée, ce ne sont pas que des mauvaises nouvelles. Et il faut se le rappeler, ça. Le royaume de Dieu avance. Il avance avec souffrance, mais il avance quand même. Un peu comme ce roseau, dans notre fable de La Fontaine. Le roseau, il est bien fragile. Le moindre vent le fait plier la tête, mais il n'est jamais détruit. En conclusion, j'aimerais simplement nous dire ce que Paul déclare ici au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Nous avons un trésor de grande valeur à partager, l'évangile de la gloire de Christ. Ce trésor, il est contenu dans des vies bien fragiles, selon la volonté de Dieu. Les épreuves, les souffrances, les persécutions peuvent nous fragiliser, nous fissurer en tant que vase. Mais c'est justement au travers de ces fissures que la lumière de Christ pourra atteindre ceux qui vivent dans les ténèbres. C'est cela la réalité. Nous sommes appelés à briller pour le Seigneur dans nos faiblesses humaines par la puissance de Dieu, par son esprit. Plutôt que d'essayer de vivre les choses par nos propres forces, par notre intelligence, par notre capacité à esquiver les difficultés. Dieu nous appelle à avoir confiance, à être prêt à saisir les opportunités que lui va placer dans notre vie. Quand bien même parfois nous sommes accablés à cause du Seigneur ou pour d'autres sujets, Paul nous encourage à lever nos têtes pour que nous ayons toujours le regard fixé sur ce qui nous attend dans l'avenir. La récompense finale qui sera la nôtre, c'est la résurrection et la gloire avec le Seigneur Jésus. Et c'est ça qui doit nous porter. Paul nous dit encore, dans Actes chapitre 20 et verset 24, « Je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, à savoir annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » J'aimerais terminer par la prière. Père éternel, nous te bénissons, nous te glorifions, parce que tu nous as confié ce grand trésor. Tu as voulu, Seigneur, nous utiliser, nous tes enfants, outils bien fragiles entre tes mains, pour partager la bonne nouvelle de ton royaume. Merci, Seigneur, parce que c'est une bonne nouvelle que nous avons apportée, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Merci parce que ton évangile continue à croître, il continue à toucher les cœurs. Aujourd'hui encore, 2000 ans après la venue de Jésus, ta parole est toujours aussi valable et ton appel toujours aussi efficace. Seigneur, j'aimerais te demander de prendre soin de tous nos frères et sœurs qui souffrent cruellement pour ton nom. Aide-les, Seigneur, à se fortifier dans leur foi. Ne permets pas, Seigneur, qu'ils perdent courage. Et j'aimerais aussi te prier pour nous, Seigneur, que nous sachions saisir notre place, que nous soyons aussi présents pour eux, que nous les soutenions, que ce soit par la prière ou par quelque autre moyen, Seigneur, que cela ne soit pas une indifférence pour nous, Et j'aimerais aussi te prier, Seigneur, que nous n'entretenions pas des pensées de culpabilité parce que nous ne souffrons pas comme eux. C'est toi qui nous as fait la grâce de ne pas souffrir, Seigneur. Et nous voulons être à ton service. Nous voulons profiter de la liberté que nous avons pour soutenir ceux qui souffrent et pour propager la bonne nouvelle. Aide-nous aussi, Seigneur, à vivre selon ce qui nous attend dans l'avenir. Tu vois que parfois pour nous, c'est bien difficile. Notre nature humaine nous ramène toujours en arrière sur les choses concrètes, terre à terre, matérielles. Et pourtant, Seigneur, nous savons que le plus important, c'est ce qui est invisible. Aide-nous à le mettre en pratique, Seigneur, dans notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Merci à vous. Merci Geoffrey. Merci pour ce message. Et c'est bien de se rappeler, tu nous as rappelé ce matin, que l'Église persécutée, que ce n'est pas qu'un sujet de désespérance ou de souffrance. Il y a ces souffrances-là. Puis aussi, pour moi, ça a tout le temps été des sources d'encouragement. Quand j'ai des moments difficiles, je repense à des témoignages que j'ai lus, à des gens qui ont été des témoins fidèles jusqu'au bout, qui on se sent encouragé, porté aussi par eux. Ce n'est pas que nous qui apportons un soutien, mais les chrétiens persécutés nous apportent un énorme soutien aussi dans leur façon d'aller jusqu'au bout, dans leur engagement avec Jésus-Christ. Dans les annonces de la semaine, je suppose qu'il y a mercredi soir la réunion, l'étude biblique et l'étude de l'évangile de Marc avec François à 19h. Jeudi, c'est réunion de prière à 19h30 jusqu'à 20h, parce que jeudi, c'est la boîte à questions. C'est juste, hein, c'est bien ça. Hein. Alors, comme il y avait des demandes de François et Christiane pour le thème d'Israël, je pensais aborder ce thème, mais je vais quand même vérifier qu'ils soient là, parce qu'ils avaient proposé la question, puis en même temps, ils avaient aussi envie d'être présents pour la réponse. Donc, on ne va pas l'aborder s'ils s'en font là. Comme. Donc, sinon, on abordera une des autres questions qui ont été posées. Quoi qu'il en soit, dans ce temps de boîte à questions, c'est une occasion d'apporter l'Évangile. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. On peut prier pour ça aussi. Il y a la distribution des flyers, je ne sais pas si ça se termine ou si ça va se terminer ces jours. Il en reste quelques-uns.
Il y a Elisabeth qui a le tas qu'elle a pris. Tu sais qu'elle n'a pas pu distribuer.
Elle a pu distribuer.
Non, elle n'a pas pu. Donc, elle m'a communiqué comme quoi, si quelqu'un peut aller le chercher là-bas, il faut communiquer.
Mais après, c'est peut-être pas le moment,
autrement,
le moment de prendre des flyers. Si elle
voilà, ben on peut attendre.
Je ne sais pas, des flyers, que Céline et Lily ont pris. Je ne sais pas si elles ont
distribué. Bon, ça peut se distribuer à n'importe quel moment, parce qu'il n'y a pas de date. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de date de péremption comme certaines choses. Donc, dans tous les cas, on peut continuer de prier pour qu'on essaye, par un moyen ou un autre, de communiquer l'Évangile et de rejoindre des gens là où ils sont. Alors, peut-être que momentanément, ils ne se laissent pas toucher. Parce qu'on n'a pas de réponse à ce qu'on pourrait se dire, ben, on a travaillé pour rien. On a propagé pour aucun résultat. Mais quand l'agriculteur laboure la terre et sème, ce n'est pas immédiatement qu'il voit la graine levée. Il faut bien avoir ça en tête, que quand on a envie de faire de l'évangélisation, on n'a pas un résultat immédiat. Puis en plus, il ne nous appartient pas, le résultat. Donc, voilà. Donc c'est vraiment important de prier pour ça, quelle que soit la forme d'évangélisation qui est proposée. À ce sujet, il y a Christina qui nous a laissé une information, un prospectus pour la troupe de théâtre.
Ouais, pour le spectacle du 12. Hein.
Ouais. Donc pour le spectacle du 12... Ouais, répète ce qui est à ce sujet.
Je rappelle que le 12 décembre à 14h30, vous êtes tous invités à Poligny à la salle des fêtes pour le spectacle avec le thème de Noël, présenté par la troupe de l'Étoile, donc la compagnie de l'Étoile, qui est une troupe catholique, une diocèse dont je fais partie, et un groupe de gospel, du gospel aussi. Donc le 12 décembre à 14h30, salle des fêtes de Poligny.
Merci. Donc, on mettra la petite boîte pour ceux qui souhaitent. S'il y a quelqu'un qui souhaite participer aux finances de la vie de l'Église. Et sinon, dans les... Est-ce qu'il y a une autre annonce, quelque chose que j'aurais oublié ?
On a normalement un conseil d'église vendredi, on va voir ce qu'on fait.
Ah oui, je pense que ça va être reporté, puisque même si c'est en visio, je ne sais pas si Elisabeth sera remise, mais enfin, on attend des nouvelles pour ça. Oui. Et puis aujourd'hui, c'est normalement une agape, alors que nous, on va partir parce qu'on a un repas. Ceux qui sont là peuvent, de toute façon, c'est à vous de voir comment vous vous organisez, hein, de toute façon, ceux qui ont préparé quelque chose, c'est possible de partager ensemble leur pas, bien sûr. Sinon, bah, s'il n'y a pas d'autres annonces. D'accord, la réunion à Varennes. Ok, à Varennes, Saint-Sauveur.
À quelle heure?
À groupe de maison. À...
C'est à quelle heure?
14h30.
C'est chez Denis et Catherine. Hein.
Chez les Perrins.
Voilà, alors on souhaite aussi une bonne fin de semaine, une bonne semaine à ceux qui nous ont rejoints en visioconférence, Daniel, Cyril et Elisabeth, et Jean-Luc et Sylvia, s'il y a d'autres personnes. Hein. Et on souhaite un bon rétablissement à Elisabeth, Cyril et Daniel qui sont encore un peu malades ces jours. Voilà, on les accompagne de nos prières. Je vous relis un verset qui a été lu ce matin par Geoffrey dans le passage là, qu'il a lu tout à l'heure. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.
Et qu'est-ce que vous diriez de finir avec le Notre Père de Littleton?
Ah, mais alors c'est très bien ça. Et en plus, tu as le numéro.
À mon avis, vous connaissez les paroles.
Ceux qui souhaitent se lever, c'est possible.
Voilà, un peu moins fort là. C'est un
Enlève ton masque, ça ira mieux si tu veux chanter.
C'est un peu grappé. Ça va mieux, ça.
On te suit de toute façon, donc.
Ouais, c'est un peu lent. Ouais, ça va.
Et enlève ton masque, on t'entendra mieux, Philippe, parce que comment on doit te suivre?
Oh, ben, c'est vrai qu'il est...
Oui, mais on veut essayer de te suivre quand même.
Oui, c'est vrai qu'il peut suivre par... Un peu plus de basse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Pardonne-nous.
Oui, bon dimanche.
Merci.
Oui, c'est tout. Bon, en fait, c'était plus ou moins dans le temps. Oui, parce que... Oui, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. C'est tout bon.
Tu l'as reçu, ça ?
Oui, oui.
Actuellement ?
Oui. Oui.
Exactement. Il n'y a pas de souci.
Je viens sur les deux.
Oui, oui.
Il y a deux qui pensent que...
Bon, du coup, vous nous abandonnez.
Oui, parce qu'on a été invité chez d'anciens collègues de travail de Karine.
Chaque année, on se voit une fois. Okay. On se voit une fois avec
Thank you.